VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir et bienvenue à cette édition du mercredi 9 mars 2016. Au sommaire ce soir.
Tunisie, situation toujours tendue à Ben Gaddan, près de la Libye, suite aux attaques terroristes et opérations sécuritaires qui ont fait des dizaines de morts.
Au Nigeria, une grève dans le secteur pétrolier menace de réduire davantage l'approvisionnement et d'affecter un plan de restructuration formulé par le gouvernement.
Toujours au Nigeria avec notre envoyé spécial, nous visiterons des camps de déplacés improvisés dans la capitale.
1125 personnes s'entassent depuis 2 ans ici. La plupart des habitants viennent des états de Borno ou d'Adamawa, là où Boko Haram fait régner la terreur depuis des années.
Présidentielle américaine, Donald Trump en marche pour la Floride et l'Ohio, remporte 3 nouveaux États. Chez les démocrates, la campagne de Clinton est secouée par une défaite dans le Michigan.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons en Tunisie où 3 djihadistes et 1 soldat ont été tués dans de nouveaux accrochages à Ben Gaddan, près de la frontière avec la Libye. On fait le point avec Idriss Fall.
D'après le communiqué conjoint des ministères tunisiens de la Défense et de l'Intérieur, 2 terroristes ont été abattus près de Ben Gaddan et 1 soldat a été tué. Un autre djihadiste présumé, retranché dans une maison, a été tué et cette nuit, 7 autres personnes ont été abattues. En moins de 24 heures, 10 islamistes présumés ont été mis hors d'état de nuire dans les opérations de ratissage autour de Ben Gaddan. Lundi, pendant les attaques simultanées contre les installations sécuritaires de cette ville, 36 extrémistes, 12 membres des forces de sécurité et 7 civils ont été tués. Selon Tunis, les djihadistes voulaient créer un émirat du groupe État islamique en Libye. Depuis ces attaques, la ville, placée sous couvre-feu nocturne, est entièrement quadrillée par les forces de l'ordre. Ce matin, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles des victimes et une minute de silence a été observée dans toutes les écoles du pays.
Lutte contre la corruption au Nigeria, le non-lieu demandé en faveur du porte-parole du principal parti nigérian d'opposition a été rejeté. Olisa Metou est accusé de blanchiment d'argent et de corruption. Il aurait perçu 1,83 million d'euros sous l'administration Jonathan. Ses avocats avaient demandé à ce que les charges portées contre leurs clients soient abandonnées après que Goodluck Jonathan n'eût pas été appelé à témoigner.
Des syndicats de la Compagnie nationale de pétrole du Nigeria ont entamé aujourd'hui une grève contre le plan de restructuration de l'État nigérian, ce qui risque d'aggraver l'approvisionnement en carburant du premier producteur de pétrole sur le continent africain, Jacques Aristide.
L'appel à la grève a été lancé par 2 importants syndicats dans le secteur du pétrole et gaz naturel, Pengasan et Nupeng, qui affirment que les opérations au sein de la Compagnie pétrolière du Nigeria ont été suspendus à l'échelle nationale. Un arrêt de travail pour protester contre ce que les syndicats qualifient de décision unilatérale du ministre du Pétrole de scinder la NNPC en 30 compagnies indépendantes. Pour le ministre Ibe Kachukwu, ce plan permettra de regagner le chemin de la rentabilité et stopper la corruption qui gangrène la NNPC. Les syndicats, toutefois, se disent préoccupés des conséquences de cette restructuration pour les employés et réclament des discussions avec le ministre. Après la chute des cours du pétrole qui n'ont pas manqué d'affecter le premier producteur de pétrole du continent africain, cette grève pourrait réduire les stocks déjà bas du Nigeria. Depuis 2 semaines, de longues files d'attente se sont formées dans les stations-service.
La campagne pour le second tour de la présidentielle au Niger s'annonce chaotique. L'opposition a suspendu sa participation au processus électoral. L'opposant et figure de la société civile, Moussa Tchangari, a prévenu que le Niger s'installait dans la crise. Le 20 mars, le président sortant Mahamadou Issoufou doit faire face à l'ex-premier ministre, Ama Amadou, qui est en prison.
Au Tchad, une dizaine d'associations de la société civile appellent la population à 2 opérations de sifflets citoyens demain jeudi à 5h30 et 21h30. Dans un communiqué reçu par l'AFP, les associations précisent les motifs de leur mécontentement. Il faut siffler la fin des injustices, de l'impunité, du népotisme au Tchad, selon elles.
Au Zimbabwe, des centaines de personnes ont manifesté à Harare pour réclamer la lumière sur la disparition il y a tout juste 1 an d'un opposant critique du régime de Mugabe. Timothée Donangmai a fait le point.
Les manifestants, dont Morgan Tsvangirai, demandent des informations sur le sort qui a été réservé à Itai Dzamara. Sur leur pancarte, on pouvait lire « Itai mort ou vivant, arrêtez les enlèvements » ou « Stop aux disparitions forcées ». Cet ancien journaliste dirigeait un groupe qui demande la démission de Robert Mugabe. Le 9 mars 2015, il avait été enlevé par des individus à bord d'une voiture sans plaque d'immatriculation à Harare. Depuis, il n'a plus été revu. Washington a exprimé son inquiétude. Bruxelles exige que les responsables de l'enlèvement soient traduits en justice. Pour Amnesty International, c'est un complot pour réduire au silence toute critique. Par ailleurs, un policier a comparu devant un tribunal d'Harare pour avoir déclaré que Mugabe, 92 ans, était trop vieux pour gouverner. Thompson Joseph Mnoi, 44 ans, a été libéré hier sous caution, mais doit comparaître pour son procès le 15 mars. Il est inculpé pour insulte à la fonction présidentielle.
Sahara occidental, le Maroc a accusé le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de dérapages verbaux et de gestes de complaisance injustifiés lors de sa visite le week-end dernier d'un camp de réfugiés sahraouis en Algérie. Selon Ban Ki-moon, Rabat et le Polisario n'ont fait aucun progrès réel dans les négociations devant aboutir à une solution juste et acceptable par tous.
En Somalie, des forces spéciales américaines ont participé à un raid héliporté contre une position des islamistes Shebab à Hordeghele dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le Pentagone. Les États-Unis avaient déjà mené samedi des frappes aériennes contre un autre camp des Shebab, tuant au moins 150 combattants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, les eurodéputés ont vivement critiqué ce mercredi l'accord de principe conclu entre l'Union européenne et la Turquie sur les migrants. Ils accusent les dirigeants européens d'avoir cédé au chantage d'Ankara sur la crise migratoire. Plus de détails avec John Linden.
De la droite à la gauche, des verts aux eurosceptiques, nombre de parlementaires ont tiré à boulet rouge sur le projet d'accord avec la Turquie et les marchandages qui l'ont accompagné à l'issue d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Les dirigeants européens se donnent 10 jours pour finaliser l'accord avec Ankara. La Turquie accepterait le retour de tous les migrants arrivés clandestinement en Grèce, y compris les Syriens. Par la suite, les demandeurs d'asile qui souhaitent revenir en Europe feront passer leur dossier par Ankara, qui transmettra à Bruxelles. En contrepartie, la Turquie exige 3 milliards d'euros d'aide supplémentaire d'ici à 2018, une exemption de visa dès la fin juin pour ses ressortissants et l'ouverture rapide des négociations sur 5 nouveaux chapitres d'adhésion.
Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a rejeté les critiques disant que son pays avait monnayé auprès de Bruxelles son engagement à enrayer le flot des migrants qui se pressent vers l'Union européenne. Nous voyons des accusations injustes contre la Turquie. C'est comme si cet argent était donné à la Turquie, comme si la Turquie mendiait, a regretté M. Cavusoglu lors d'une conférence de presse à Ankara. Depuis des semaines, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé les réticences de l'UE à verser les sommes promises.
La France ne reconnaîtra pas automatiquement un État palestinien si son initiative pour relancer le processus de paix avec Israël échoue. C'est ce qu'a assuré ce mercredi au Caire le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault. Fin janvier, son prédécesseur Laurent Fabius avait provoqué une vive réaction de l'État hébreu en proposant d'organiser une conférence internationale pour relancer un processus de paix au point mort, ajoutant qu'en cas d'échec, la France reconnaîtrait l'État palestinien. Monsieur Ayrault, comme le souligne l'AFP, était en visite officielle en Égypte, où il entendait notamment relancer l'initiative de paix entre Israël et l'autorité palestinienne, avec pour objectif principal de convoquer une conférence internationale dans les prochains mois.
Présidentielle américaine, surprise hier soir dans les primaires du Michigan, où le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a battu la favorite chez les démocrates, l'ancienne secrétaire d'État et ancienne première dame, Hillary Clinton. Cette dernière a, en revanche, gagné sans problème dans le Mississippi. Côté républicain, aucun problème pour l'homme d'affaires Donald Trump, grand vainqueur dans le Michigan, dans le Mississippi et à Hawaï. Le sénateur ultra-conservateur du Texas, Ted Cruz, a remporté le petit État de l'Idaho. La bataille des 7 jours à venir s'annonce donc féroce. Les anti-Trump sont nombreux au sein du Parti républicain, mais le milliardaire reste confiant alors qu'il a sévisé sur la Floride et l'Ohio le 15 mars.
Un profil pour un vaccin contre le virus Zika doit être établi d'ici mai. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'OMS. Mais les experts brésiliens ne pensent pas que les premiers vaccins puissent voir le jour avant 3 ans, ce qui serait trop tard pour juguler l'épidémie actuelle. Peut-être que dans 3 ans, nous aurons un vaccin. 3 ans, c'est optimiste, a déclaré à Genève aux médias le professeur Georges Khalil, directeur de l'Institut de recherche brésilien Butantan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, aujourd'hui avec Nathalie Barge.
Dans un rapport publié ce mercredi, le FMI affirme que les difficultés économiques du Zimbabwe se sont aggravées et incite le gouvernement à agir rapidement pour inverser la tendance, indique l'AFP. Un programme de transformation économique ambitieux est nécessaire pour revitaliser l'économie zimbabwéenne, a déclaré Domenico Fanizza, qui achève une mission dans le pays. Le secteur minier ivoirien a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 479 milliards de francs CFA contre 385 milliards en 2014, soit une hausse de 24%, a annoncé le gouvernement ce mercredi, rapporte l'APA. La production de l'or industriel est en constante progression, a précisé le porte-parole du gouvernement Bruno Nabanié-Koné, rappelant que la Côte d'Ivoire a un objectif qui va au-delà des 30 tonnes de production d'or en 2020. Au Cameroun, les cabinets Capgemini Consulting et Interface, désignés pour élaborer un plan national de développement de l'économie numérique, viennent de lancer une plateforme et invitent le public à faire des propositions en vue de contribuer à la conduite de ce chantier. La société numérique dont rêve le Cameroun, souligne le ministère des Postes et Télécommunications, se caractérisera par un meilleur accès à l'Internet haut débit sur les réseaux fixes et mobiles, et un service public plus performant et plus accessible à tous.
Merci Nathalie.
Notre chroniqueur sportif Eric Manirakiza est déjà en studio. Alors salut Eric.
Salut Gabi.
Parlons football. L'affaire Blatter-Platini fait un détour par la Fédération française à Paris.
Oui, la justice suisse a accéléré ses enquêtes sur le paiement suspect de 1,8 million d'euros de Joseph Blatter à Michel Platini. Des documents en lien avec le paiement suspect ont été saisis aujourd'hui à la FIFA à Zurich et à la Fédération française de football à Paris. Platini s'est félicité de cette nouvelle étape, tandis que Blatter a ironisé, précisant que l'argent payé à Platini a été versé sur son compte privé dans une banque suisse.
Europa League, 8e allée, Liverpool jouera contre Manchester United.
Oui, Liverpool et Manchester United, les deux géants du foot anglais tombés en disgrâce cette saison, s'affrontent pour la première fois sur la scène européenne. C'est jeudi à 20h05 GMT en 8e de finale allée de l'Europa League. Et dans leur confrontation depuis 1894, Gabi, Manchester United mène par 67 à 55 rien qu'en championnat d'Angleterre, 44 nuls.
Champions League, la tactique de Zidane, tout pour l'attaque.
Oui, une attaque toujours incisive. Hein. Le technicien français est fidèle au joueur offensif qu'il était. En prenant l'attaque, Zizou a qualifié hier le Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une tactique risquée, mais les matchs couvrent.
Oui, dans ce genre de match, il faut surtout s'assurer qu'on a une bonne défense, Eric. Brésil, Dunga préfère avoir Neymar pour les Jeux Olympiques de 2016 que pour la Copa América.
Oui, les JO sont prioritaires pour nos sélectionneurs brésiliens, raison essentielle. Ça joue à domicile et c'est le seul titre que le Brésil n'a jamais remporté, a déclaré Dunga. Peut-être aussi laver l'échec du Mondial, Gabi.
Dopage, Jeux européens, quelques 490 athlètes ont pu recourir au Meldonium.
Tout à fait, jusqu'à 490 athlètes, dont 13 médaillés, auraient consommé du Meldonium, placé seulement depuis le 1er janvier de cette année sur la liste des produits interdits par l'AMA lors des Jeux européens de Bakou en 2015, selon un article du British Journal of Sports Medicine mercredi.
Basketball, San Antonio se reprend, les Lakers enchaînent.
San Antonio a réagi avec éclat après sa défaite à Indiana la veille en dominant Minnesota 116-91 hier, alors que les Lakers ont enchaîné une deuxième victoire consécutive face à Orlando 107-98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibour et Chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Et première escale ce soir, Gaby, Djamena.
Élection tchadienne du 10 avril, le député Yorongar Ngarledji, chef du parti Fédération Action pour la République, qui a vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel le 2 mars, estime qu'il a été écarté de la course en raison de sa popularité électorale, présentant une menace pour le président sortant Idriss Déby Itno. Nathalie Barge a joint Yorongar Ngarledji à N'Djamena.
S'il y a une candidature qui devrait être rejetée, c'est celle d'Idriss Déby. Et pourquoi? Déby est chef traditionnel dans son village. Or, la loi dit un chef de village, s'il veut prétendre à un poste électif, il faut qu'il démissionne de son poste de chef traditionnel. Deuxièmement, Déby s'est délivré de casier judiciaire, pas dans le lieu de sa naissance, mais ailleurs, ce qui constitue une infraction. Donc cette pièce entache la régularité de sa candidature.
Quelles ont été les raisons du rejet de votre candidature?
Au terme de l'article 121 du Code électoral, le choix de l'emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales, bleu, or, rouge, est interdit. Or, l'emblème du MPS, parti de Déby, comporte les trois couleurs. Pourquoi on rejette mon dossier? Tout simplement parce que je n'ai pas joint l'emblème et ma photo d'identité. J'ai été trois fois candidat. Je n'ai jamais joint ni mon logo, ni ma photo d'identité. Or, c'est la raison invoquée pour pouvoir m'éliminer. Parce que cette année, je suis allé très tôt remuer les cocotiers à l'intérieur du pays. Et finalement, ça l'a inquiété. Il a donné des instructions pour qu'on me recale. Il a utilisé un député comme moi pour me piéger en m'invitant à une rencontre des partis politiques de l'opposition parce que ce monsieur est un opposant, entre guillemets. J'y suis allé et on a fait passer la feuille de présence. J'ai signé. Et le bonhomme a utilisé cette liste de présence-là pour dire que nous l'avons investi. Donc, si j'investis ce monsieur, je ne peux pas encore m'investir. Donc, ils avaient joué ce jeu-là. J'ai vu le danger. J'ai fait un démenti formel.
Pourriez-vous nous donner le nom de cet opposant?
C'est le député Jimmy Bagao qui a été manipulé pour ça. On a nommé ce militant il y a 2 jours dans des postes de commandement à l'intérieur du pays, sous-préfet, etc. Il a été royalement payé pour son coup fourré.
L'opposant tchadien Yorongar Ngarledji joint N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Lutte contre Boko Haram au Nigeria, le régime de Muhammadu Buhari affirme que la menace du groupe terroriste a beaucoup diminué, mais jusque dans la capitale nigériane, on ressent les effets néfastes des djihadistes. Abuja abrite des camps de déplacés improvisés par ceux qui fuient Boko Haram. C'est là que s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique au Nigeria. Écoutons le reportage de Nicolas Pinault.
La musique résonne dans le camp de déplacés de New Kouchogoro. Ce jour-là, on célèbre un mariage. Des sourires illuminent les visages. Un moment de bonheur. Pourtant, le quotidien des habitants de ce camp improvisé est loin d'être facile. 1125 personnes s'entassent depuis 2 ans ici. Nous sommes à quelques kilomètres seulement du centre-ville d'Abuja, la capitale nigériane. La plupart des habitants viennent des états de Borno ou d'Adamawa, là où Boko Haram fait régner la terreur depuis des années. Exemple avec l'ami John, une jeune femme qui a été kidnappée pendant 2 semaines par les djihadistes du côté de Gwoza. Elle montre une cicatrice au-dessus de sa cheville droite.
Quand ils m'ont kidnappée, ils m'ont demandé de les suivre et j'ai refusé. Donc pour me punir, ils m'ont tiré dessus, dans la jambe. Aujourd'hui encore, parfois, ça me fait mal.
8 camps comme celui-ci existent en périphérie d'Abuja. Les autorités n'interviennent pas vraiment. Ce sont les associations caritatives qui soulagent les déplacés. Alhaji Ousmane Adamou est le chef du camp de New Kouchogoro.
Des gens viennent nous voir tous les jours pour nous aider, pour nous donner de la nourriture et du matériel. Ce sont des ONG. On en a reçu du gouvernement, mais c'est insuffisant. Jusqu'à présent, seulement deux fois en deux ans.
La solidarité existe, mais les habitants du camp vivent dans une grande précarité, notamment en matière de soins médicaux. Moussa Harouna a fui l'état de Borno State il y a deux ans après une attaque. Ce père de famille de 32 ans s'inquiète pour la santé de son enfant.
Nous souffrons parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter ce que l'on veut. Quand on est malade, il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Même mon bébé qui a un an est malade, car je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas bon. Il faut survivre.
Tous les déplacés de New Kouchogoro espèrent un jour rentrer chez eux si la paix est de retour dans leur village. Nicolas Pino, Abuja, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, on braque les projecteurs sur les femmes. Au-delà de la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion de faire un bilan sur les acquis, les revendications et les tabous. Où en est-on de la parité, de l'accès aux soins et à l'éducation, ou encore de la prise en compte des violences faites aux femmes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Parlons maintenant des élections primaires ici aux États-Unis. Victoire surprise du sénateur Bernie Sanders dans le Michigan hier soir, où sa rivale Hillary Clinton était annoncée vainqueur par plusieurs sondages. Dans le camp républicain, le magnat de l'immobilier Donald Trump a consolidé son avance sur ses adversaires. Mais ses chances pour gagner la nomination de son parti semblent se rétrécir selon les récents sondages. Le vote de mardi prochain dans certains États clés comme la Floride et l'Ohio reste donc déterminant. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint Leonardo Vidialon, professeur associé au département des sciences politiques et au centre des études africaines à l'Université de Floride.
Nous voyons quand même que ça a été une petite surprise. Depuis un bon moment, nous voyons que Hillary Clinton semble être bien en avance et à chaque étape, Bernie Sanders s'approche encore et redevient quand même viable comme candidat. Donc, bien sûr, ça peut influencer. Je crois qu'on verra surtout mardi prochain avec les autres grandes primaires qui s'annoncent. Mais c'est sûr que Bernie Sanders continue, en dépit de tous les pronostics qu'il disait que c'était déjà donné pour Hillary. Il continue à positionner une menace réelle pour elle.
Côté républicain, Trump a consolidé son avance, mais apparemment, il fait moins peur qu'avant.
Écoutez, je crois que ça dépend. Hein. Il y a beaucoup de gens auxquels Trump fait peur, y compris, bien sûr, les grands du Parti républicain aux États-Unis. Nous avons vu la semaine dernière, en commençant par l'ancien candidat Mitt Romney, qu'on a eu quand même ce qu'on appelle ici le establishment, c'est-à-dire les grands barons du Parti républicain, se sont tous attaqués contre Trump en essayant de le descendre. Donc, évidemment, ça a eu un peu d'impact. Il semblerait que ça a eu un peu d'impact sur le résultat, ces derniers résultats, c'est-à-dire que ça lui affaiblit un petit peu. Mais nous voyons quand même qu'il continue. Et en Floride, surtout, les sondages lui donnent un grand avantage. Donc, on verra comment ça se roule.
La bataille de mardi prochain, dans certains États clés, surtout en Floride ou dans l'Ohio, s'annonce palpitante.
Tout à fait, tout à fait. Comme vous savez, je suis moi-même en Floride, donc je voterai mardi prochain moi-même. Et en Floride, en fait, la grande question qui se pose, c'est de savoir si Marco Rubio va pouvoir sauver sa candidature. Évidemment, il est en grande bataille avec Ted Cruz, pour se positionner comme l'alternative à Trump. Mais depuis les derniers résultats, Cruz a eu un grand avantage, un grand avance sur Rubio, qui semble être marginalisé jusqu'au point de presque disparaître, sauf s'il peut se positionner pour gagner la Floride. Pour l'instant, les sondages donnent toujours Trump bien vainqueur avant Rubio et avant Cruz. Un primaire très très important.
Et Sanders peut redessiner la carte à son avantage.
Écoutez, bien sûr, la victoire de hier à Michigan lui donne un petit souffle. Et comme je disais, en fait, à chaque moment où on pense que voilà, ça y est, c'est Hillary qui a pris l'avance définitivement, nous voyons que Sanders arrive à se rattraper. Donc je crois que ça continue à être une réelle bataille.
On écoutait le professeur Leonardo Vidialon de l'Université de Floride.
Plus plusieurs jeunes scientifiques africains sont réunis depuis hier à Dakar, au Sénégal, à l'occasion du Next Einstein Forum, le NEF, une plateforme américaine pour promouvoir la science. Ces jeunes chercheurs vont assister avec les savants de tous les continents présents aux assises. Nani Talani, adjoint à Dakar, Arun Sharma, le directeur général du Next Einstein Forum.
Nous, le but long terme, c'est qu'on veut changer le but mondial de la science en Afrique. Ça, c'est le but très long terme. Mais on a concrètement, pour le CET Forum, on veut que les jeunes scientifiques, meilleurs jeunes scientifiques en Afrique, puissent avoir des contacts avec les meilleurs scientifiques mondiaux. On veut faire une plateforme pour les contacts entre les institutions et les ministres, les gouvernements, les autres institutions d'Afrique et le reste du monde. Et puis, on veut qu'on puisse soutenir une bonne policy, la science policy en Afrique. Qui sont les meilleures politiques scientifiques? Et comment est-ce que les autres pays qui n'ont pas la meilleure politique scientifique, comment est-ce qu'ils peuvent faire l'implémentation de ça?
Alors concrètement, comment est-ce que vous travaillez pour connecter tous les jeunes scientifiques des pays d'Afrique?
Oui, on a quelques programmes. Par exemple, on a le programme qui s'appelle les lauréats de NEF et on a cherché les 15 meilleurs scientifiques d'Afrique. Et puis, on a fait une grande plateforme. Ils ont parlé en plein air. C'était tout en live stream. On annonce, on a fait de grandes publicités. On a aussi un programme qui prend une des meilleurs scientifiques de chaque pays africain. Et ils sont venus ici. Donc on a 54 pays africains représentés ici par les jeunes scientifiques.
Et lorsque vous sélectionnez ces jeunes et que vous avez votre programme, est-ce que vous les envoyez dans des écoles?
Non. Pour nous, on peut faire ce qu'on peut faire. Pour maintenant, ils sont de niveau universitaire. Donc ils ne sont pas les jeunes comme ça, ils sont les jeunes scientifiques. Ils sont en 30 ans, 40 ans, quelque chose comme ça.
Et en quoi consiste votre aide à l'égard de ces jeunes puisqu'ils ne sont pas envoyés dans les écoles?
Bon, pour nous, il faut qu'on change. Pour nous, il y a deux problèmes. Une, c'est qu'il faut qu'on améliore la situation d'école en Afrique. Ça, c'est un. Donc ça, c'est une question de la politique, c'est une question de la funding. Il faut qu'on change le système. Le deuxième, c'est qu'on fait la publicité. On veut que tout le monde connaît l'importance de la science et aussi que les femmes, ils peuvent être des jeunes chercheurs. Et comme ça, on fait des vulgarisations, tout ça.
Pouvez-vous connaître un peu le nombre des jeunes que vous avez déjà aidés à émerger?
Oui, bon, ici, on a 500 jeunes scientifiques qui sont venus ici. Et ça, c'est sur la première édition.
À Dakar, cette fois-ci, c'est la première édition?
Oui, c'est correct.
Donc, il y a 500 jeunes, mais parmi ces jeunes, il y a au moins deux qui vont être primés. Qui vont recevoir le prix? Il y en a?
Oui, on a donné 15 prix pour les meilleurs jeunes scientifiques en Afrique.
Est-ce qu'on peut savoir en quoi consistent ces prix?
Bon, pour maintenant, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais c'est un prix. Ils ont la publicité, ils ont pris une photo avec deux chefs d'État et on a fait des grandes campagnes de vulgarisation avec les 15.
Avez-vous un message particulier à l'endroit des jeunes scientifiques africains qui sont encore à l'école?
Oui, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Et l'avenir, c'est à nous à construire et ça dépend sur les jeunes scientifiques africains.
Arun Sharma, le directeur général du Next Einstein Forum.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition, mise en onde par Joselle Morissin avec l'assistance technique de Nelson Lopez à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La conversation se poursuit sur Facebook où vous pouvez partager ce qui fait l'actualité chez vous et nous dire ce que vous pensez de nos émissions. N'oubliez pas de vous connecter sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.